Aujourd'hui, nous accueillons les éditions de l'Air avec son fondateur, Michel Morin, et deux de ses auteurs, Jean-Jacques Chavaz et Marie-Jeanne Urec. Michel Morin, vous avez fondé les éditions de l'Air en 1978, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? Il me semble qu'il y a plusieurs étapes, entre autres une belle, c'est juste?
Oui, non, mais c'était, disons que j'étais libraire, il faut dire, et le métier des libraires était en pleine évolution, et petit à petit j'éprouvais le besoin d'être à la source, là où il y a les manuscrits, là où l'on sélectionne le grain de livret, voilà, et puis les hasards des rencontres ont fait que cela a été possible, en fait, voilà.
Il y a eu notamment un premier livre dédicacé qui vous avait un peu mené sur cette voie, qui vous avait...
Ah, ça c'était... Alors auparavant, en effet, j'avais rencontré Julien Gracq et il m'avait fait une dédicace qui... Alors que j'accorde pas une importance particulière aux dédicaces, mais celle-ci, je me rappelle, m'avait profondément marqué, il m'avait mis dévoué à la cause du livre. Et tout à coup, j'ai dit, bien voilà, ce sera ça ma cause, et un jour, je sortirai un livre, la cause du livre, et voilà, disons que je me suis senti appelé, voilà.
Comme si vous aviez une mission, en fait.
Tout à fait, je l'ai pris comme cela.
Les éditions de l'Air ont maintenant plus de 25 ans. Est-ce qu'il y a des événements majeurs qui ont fait ce qu'elles sont maintenant?
Oh, eh bien, c'est bien sûr qu'il y a des événements majeurs, mais c'est une multitude d'événements que, évidemment, on juge majeurs le jour où le livre sort, et puis au fil du temps, eh bien, ces événements... ont tendance à ma foi à être légués au second plan, mais c'est en fait c'est une multitude d'événements majeurs qui oui, parce que chaque jour a son lot de satisfaction, ses rencontres, ses manuscrits, les sorties de livres, surtout ces jours où il en sort 2-3 par jour, là, la veille du salon. Donc c'est une vie très remplie et très 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 riche. Alors aujourd'hui, il m'est difficile de dire tel jour fut un jour vraiment une date à marquer d'une croix blanche ou c'était vraiment un jour pas comme les autres. J'ai l'impression que oui, tous les jours sont merveilleux. Moi, je suis heureux de me réveiller le matin et de voir que je suis toujours là et de voir que l'entreprise poursuit ses objectifs.
D'accord. Et comme vous le disiez tout à l'heure, vous recevez des manuscrits tous les jours. Qu'est-ce qui vous fait choisir un manuscrit plus qu'un autre?
Oh, c'est évidemment subjectif. Et c'est vrai que dans la masse de manuscrits, il y en a quand même le 80%, je dois dire, qui ne valent pas un clou, mais qui sont disons très très secondaires. C'est des gens qui ont un rapport lointain avec la lecture et l'écriture. En revanche, dans les 20% restants, ça devient plus compliqué. Tout à coup, il y a une voix qui nous parle. Bien sûr, il y a la qualité de l'écriture, toujours, parce que la qualité de l'écriture, quand même 9 fois sur 10, elle est le résultat d'une vie qui a été intériorisée, qui a été dépassée, qui était l'auteur a été traversé par mille et une émotions. L'écriture est le résultat aussi de tout cela. Hein. C'est assez rare qu'il y ait la forme sans le fond. Ça peut arriver, c'est des cas très particuliers. Tous les cas, il y a tous les cas de figure dans le monde de l'édition, mais d'une manière générale, c'est quand même la qualité de l'écriture, et après ça devient subjectif, on entre, il y a telle musique qui nous séduit plus qu'une autre, il y a tel thème qui, où il y a une identification, ou un thème qu'on a envie de défendre, ça arrive cela, inévitablement.
Alors par exemple, puisque nous les avons avec vous, avec nous, qu'est-ce qui vous a fait choisir, qu'est-ce qui vous a parlé dans la salle d'attente de Marie-Jeanne Urec?
Oh, Marie-Jeanne Urec, c'est un ton très très particulier. C'est une voix nouvelle, quoique celle de Jean-Jacques Chavaz, presque aussi. Mais il y avait un côté... c'est un monde dans lequel, moi je n'entre pas si facilement que cela, dans celui de Marie-Jeanne Urec, en fait. Mais j'étais très intrigué par cette... ce ton d'une nouvelle génération, avec une sensibilité bien particulière, mais aussi quand même, une fois que j'ai tenu aussi à rencontrer la personne, et j'ai remarqué de quelqu'un qui avait une personnalité qui était déterminée, et tout à coup, j'ai parié sur l'avenir, j'ai joué comme ça, avec les destins, comme on joue aux cartes, comme cela, un petit peu. Voilà comme ça s'est passé pour Marie-Jeanne Hurec, c'est un pari sur l'avenir.
Et puis, De la cime à la racine, de Jean-Jacques Chavaz.
Là, alors, je l'ai lu tout de suite, c'est un hasard, et je ne l'ai pas relâché. J'ai tout de suite téléphoné à l'auteur, j'ai demandé à le rencontrer. La qualité de l'écriture, le thème m'ont beaucoup interpellé. Il y a une sensualité aussi dans l'écriture qui m'a frappé. Et j'étais sûr que... comment vous dire ça, qu'on ferait un événement, mais j'ai rien planifié, mais je me suis senti comme ça, un peu comme un petit frère, comme ça, en lisant ce texte, j'ai dit je dois faire quelque chose pour ce texte-là, voilà.
Michel Moret, vous êtes le fondateur des Éditions de l'Air. Or, on entend dire partout que les maisons d'édition suisses sont en difficulté actuellement. Est-ce que vous pensez que le livre unique du livre et la maintenance de petites librairies feraient une différence ?
Oui, c'est vrai que... Bon, d'abord, le métier a toujours été difficile et je pense qu'il n'est pas plus difficile maintenant qu'auparavant. En revanche, la fermeture de petites librairies pose un problème parce qu'il y a moins de points de vente, donc moins de chances pour découvrir surtout un jeune auteur, un nouvel auteur. C'est surtout ça... Le problème. Autrement, je dirais que, ma foi, la centralisation fait qu'il y a des compensations, mais lorsqu'on lance quelqu'un de nouveau, c'est bien qu'il y ait de nombreux points de vente pour que le texte de l'inconnu ait une chance de rencontrer son lecteur.
Parce que ce ne serait pas suffisant qu'il soit dans une grande librairie quelconque et qu'il soit visible ?
Mais vous savez, les grandes librairies, les grands centres et comme ça aiment les gens connus d'abord. Hein. Ça me rappelle une histoire d'un écrivain qui allait trouver Jean-Paul Lange chez Gallimard. Il disait, mais vous m'avez refusé mon manuscrit, mais vous m'avez vraiment pas bien argumenté pourquoi vous le refusiez. Et il lui avait dit, eh bien, faites-vous connaître et quand vous serez connu, bien revenez me voir. Hein. Eh bien, c'est un peu cela en fait. Le grand commerce en ce moment, les grandes chaînes de distribution, elles sont attirées par ce dont on parle, sans grand esprit critique, mais c'est ce dont on parle. Il y a des vogues médiatiques et la petite librairie, elle compense cela, elle donne une chance de plus à l'originalité de ton.
En parlant d'originalité et de grosse par rapport à la grosse vente, peut-être, en Suisse ou en France, on lit volontiers des auteurs tchèques, japonais, allemands, que sais-je, y compris des États-Unis, évidemment, peut-être surtout. Et par contre, là-bas, ils ne traduisent que quelques livres par an. Que faut-il penser de la domination de la langue anglaise et qu'est-ce qu'on pourrait faire ?
Oh bien, on ne peut pas faire grand-chose. Ils ne sont pas du tout préoccupés par ce qui se passe ailleurs. Hein. Leur pays est un monde en soi, et c'est celui-ci qu'ils aimeraient agrandir. Hein. D'ailleurs, des grands auteurs comme Solzhenitsyn, qui sont prix Nobel littérature, ne parviennent même plus à se faire traduire en langue anglaise. Mais ça, c'est un problème, disons, économique, de caisse résonance. Et avec la globalisation actuelle, cette globalisation a des effets pervers assez terribles. Et en ce moment, il y a un petit problème, il y a même un grand problème pour toutes les minorités linguistiques et pour tous les petits pays. Raison pour laquelle la Kundera disait il n'y a pas longtemps, si Kafka vivait à notre époque, eh bien, il ne serait pas connu parce que l'Empire austro-hongrois était une caisse résonance plus importante que la petite Tchéquie oubliée. Alors que dire de la Suisse romande, hein? Et si Solzhenitsyn n'arrive même pas à se faire traduire en anglais, lui qui a vécu en Arizona, qui est un rescapé, un homme qui était prix Nobel, qui s'est battu contre la dictature, que évidemment qu'il n'y a pratiquement aucune chance pour un auteur roman. Il faut vraiment des circonstances tout à fait exceptionnelles. Ou alors même, il faut même payer un agent pour obtenir la traduction.
Mais dans cela, le lecteur a un rôle tout de même. C'est lui qui choisit de lire ou de ne pas lire quelque chose.
Il le choisit, dans un premier temps, il ne choisit pas tellement. Ce n'est qu'une fois qu'il a vraiment un bagage culturel et un esprit critique qu'il choisit. Dans un premier temps, je crois qu'il ne choisit pas tellement. Ou alors, s'il le choisit, c'est d'une manière très superficielle, mais aussi assez inconsciente. Il sera attiré par la couverture, mais surtout par ce dont on parle. Il aura de la peine à être... C'est difficile d'attirer l'attention à quelqu'un qui n'achète un livre qu'une fois tous les trois mois. C'est extrêmement difficile. Donc celui-ci se rabattra sur la liste des best-sellers du Nouvel Observateur, de je ne sais quel journal. Mais ce n'est qu'après, ce n'est qu'une fois qu'il a un certain bagage, que tout à coup... Il s'est fait son propre jugement, mais en fait, cela veut bien dire que pour faire un auteur, ça prend, moi je pense, une quinzaine d'années, mais peut-être on n'est pas lecteur tout de suite non plus. On est des machines à lire dans un premier temps, et après seulement, on a un lecteur avec un esprit critique, et un lecteur qui a une influence, mais ça ne se fait pas tout de suite, je crois.
Est-ce qu'il faut l'éduquer, le lecteur, et qui pourrait le faire? Est-ce qu'on a envie de le faire? Pourquoi ne pas lire que des choses?
Le mot éduquer était peut-être un peu fort, mais il faut toujours éveiller sa curiosité et puis maintenir l'esprit critique partout, faire de sorte que l'on pense par soi-même à la manière socratique. Le jour où on ne pense plus par soi-même, tout est possible. On peut faire lire n'importe quoi à n'importe qui. Et là, le livre devient même dangereux. Il faut se battre pour l'esprit critique, pour l'indépendance, et faire confiance à l'homme malgré ce climat ambiant assez détestable. Mais il faut lui faire confiance.
Michel Moret, pardon, vous êtes également l'auteur d'un livre de citations, ouais. Le livre bleu des citations. Pourquoi avoir fait un livre de citations?
Oui, alors ça c'est un amusement, mais cela dit, j'aime bien la citation, évidemment que j'ai le goût des mots, sinon je ne ferais pas ce métier. Mais il se trouve qu'à l'entrée de mon bureau, il y a un grand tableau sur lequel chaque jour j'inscris une citation. Et finalement, plusieurs personnes m'ont dit, mais tu devrais en faire un livre. Et il y a quelqu'un même m'a dit, mais je t'en achète 500 si tu fais un livre. Et puis voilà, et donc petit à petit, j'en ai fait un livre, mais ça m'a pris... ça m'a donné beaucoup de plaisir, en fait, à le faire, et je l'ai fait d'une manière, alors, très subjective, sans me soucier de qui que ce soit, vraiment, ceux qui parlent derrière mon dos, mon cul les contemple. J'ai fait ça en toute liberté, pour me faire plaisir, d'une manière, je dirais, comme ça, un petit peu gastronomique, et sensuelle et égocentrique.
Nous étions avec Michel Moret, qui nous parle de ses éditions, les éditions de l'air.